Vous écoutez France Culture.
Je veux que tout change.
Vous entrez dans les ateliers de la nuit, vous avez le droit d'être en colère. On dit se mettre en colère. La colère monte, et donc elle vient de loin. Elle peut se faire oublier pendant un moment, feindre de ne pas exister. Elle peut être muette, faire semblant, fermer les yeux. Mais ça n'a qu'un temps, celui qui correspond à sa montée. La colère peut même nous précéder. On peut naître en colère. Dès le premier jour, le sentiment est présent et c'est lui qui tient vivant, qui rend vigilant, qui permet de ne pas accepter ce que l'on voudrait nous faire avaler. La colère dicte un chemin, discrètement. Elle ne s'entend pas, ne fait aucun bruit, elle n'est pas repérable. Le cri peut rester en suspens. Le tout est de savoir d'où vient cette colère pour ne pas se tromper dans l'adresse, ne pas se méprendre sur le destinataire, la placer au bon endroit au bon moment. Certains n'arrivent pas à hausser le ton. Certains ont peur des disputes, ne veulent pas qu'un mot soit plus haut que l'autre, n'élèvent jamais la voix, ont du mal à faire du bruit, à rendre leur colère sonore. Ce soir, elle le sera. Catherine Guillardy part de sa colère à elle pour interroger la vôtre. Il n'y aura pas de cri gratuit, juste une rébellion nécessaire, un cri de vie. La colère pousse à l'action, elle porte. Elle provoque la vie. Elle peut même se révéler créatrice. En écoutant, n'oubliez pas que la colère, c'est une question. Elle parle et puis elle attend quelque chose. Elle interpelle et elle attend une réponse. Donc à minuit, on sera un peu plus vivant. On aura poussé un cri, on l'aura placé au bon endroit et on attendra des réponses en contrepartie. La colère de Catherine Guillardy et Nathalie Salle.
Écoutez-moi bien, il y a une question que je veux vous poser, une question très grave. Est-ce que vraiment je suis coléreux? Quoi?
Je fais
Et toi, escarte-fille, pourquoi tu ne réponds pas?
Mon cher, je ne suis pas bon juge. Depuis 65 ans que tu es au monde, tu dois bien savoir ce que tu es.
Ça, ce n'est pas prouvé.
On ne sait pas toujours ce qu'on est. Il y en a qui sont cocus, qui ne le savent pas.
Oui, à moins que leurs amis ne leur disent 10 fois par jour.
Oh, 10 fois par jour. C'est la première fois que je t'en parle depuis une semaine. Mais réponds à ma question.
Moi, je pense que la colère, elle est rouge. Rouge comme une tomate.
Je pense que la colère a les yeux noirs et blancs.
Moi, je pense que c'est parce que on tombe amoureux de la colère, donc on devient tout rouge.
Moi, je pense que la colère, elle est toute liquide.
Moi, je pense que la colère, elle est grise. Parce que quand tu as des embrouilles, tu penses à du gribouillage dans ta tête.
Et aussi, je pense que la colère est invisible. Tu la crois grise, ou verte, ou multicolore, ou plein d'autres couleurs, mais elle peut être invisible parce que tu la vois pas quand tu es en colère.
Je pense qu'elle est blanche parce que je pense que c'est un fantôme, parce que c'est une histoire et on ne peut pas sortir une colère en réalité. Donc je pense que c'est un esprit ou comme un fantôme.
Je suis colère. Catherine Guillardy, Nathalie Salle.
Elle vient de loin du fond des tripes, accélérant la noble bombe. Quand les éclairs dans leur rythmique donnent la cadence, mis le tronc de la fanfare des dépressions. L'orchestre n'était pas invité, mais il impose sa procession transcendante et incontrôlée. Elle vient de loin du fond du crâne et assaisonne toutes les idées. Des pistes du cuisinier profane, la bouffe errance est périmée. Je vomis du noir, j'ai faim de couleur, ma joie accroche au fond la poêle. Je respire le mal-être des vapeurs qui au fond de mon cerveau s'emballent.
Je suis colère. Cela s'entend quand je parle. Ma voix me trahit. Je n'y peux rien. J'aime ces voix douces et suaves à la radio. Je ne sais pas jouer de cette voix. Je ne peux pas. Le grondement intérieur qui m'habite fait vibrer mes cordes vocales vers les graves. Ce ne sont pas ces graves enveloppants et rassurants. Ce sont des graves tendus, sur leur garde, prêts à monter le volume en cas d'attaque. Ma voix est appuyée, insistante, forte, une voix qui exige qu'on l'entende, convaincue qu'on ne l'écoutera pas. Pendant longtemps, je n'ai pas senti en moi le tremblement du volcan qui annonçait l'irruption à venir. J'ai appris à retenir les émotions, surtout les émotions négatives. La colère en fait partie, comme la tristesse. Comme Sénèque, j'ai méprisé l'insensé, et comme les bourgeois du XIXe siècle, réprimé tout débordement d'émotions incontrôlées. C'est comme ça qu'ils appelaient la révolte sociale. Ma colère tourbillonnait si longtemps dans mon ventre et mon cœur que lorsqu'elle sortait enfin, elle paraissait totalement décalée, exagérée, feinte même. J'admirais ces filles qui réagissaient dès que naissaient en elles l'indignation et la fureur. Comment osaient-elles ? Regardez l'enfant en colère, sans retenue. Ce corps qui tremble, ce visage défiguré, la peau tendue et plissée à la fois. Cette bouche qui hurle, ses yeux injectés de sang et mouillés de larmes, qui inondent ses joues chaudes et rouges, rouges comme la colère.
Colère, nom féminin et adjectif. Je suis colère. 12e siècle, écumé de rage. 15e, latin, choléra. Grec, colé, bile. 16e, avoir le feu à la tête. Devenir chèvre, prendre la mouche. Quelle mouche t'a piqué ? Irriter les frelons. Mettre en colère, 16e siècle. Monter sur ses grands chevaux. Saint-Simon, hors de ses gonds. Faire le diable à quatre. 17e siècle. Décharger sa rate. 18e siècle. Il crève dans ses habits, la lune est sur Bourbon. Votre chien mord-il encore ? Se donner de la tête contre le mur. Il crève dans ses panneaux, regardez noir, écumé comme un verra. Lâcher les cataractes, la barbe lui fume. 19e, se manger les blancs des yeux. 20e, se cailler, rager, avoir les glandes, piquer un bœuf. Canard enchaîné, 1982.
Elle vient de loin, me pique les yeux, plante son dard dans mes jumelles. Son sabre est tellement vénéneux que mes larmes enflamment mes prunelles. Je perds la fume et pas la voix, encore moins l'ouïe qu'on l'odorat. Inhale les parfums amers dans les arômes de la colère. Elle vient de loin, elle est en moi, parfois s'excite quand elle dort pas. Je la capterai bien de somnifères, mais elle place ses beaux restes éphémères. Alors elle s'insère dans mes mots, mademoiselle satanée merveille. Se glisse dans l'encre de mes stylos, putain d'émotions sans pareil.
Bah elle peut partir du cœur par exemple.
Aussi, on peut la sentir dans les veines, la colère. Quand... C'est comme s'il voulait tuer quelqu'un.
Moi, je trouve qu'aussi, quand on est en colère, eh ben, y a le cœur qui bat super beaucoup.
C'est vrai que ça vient profondément du cœur, parce que si c'est quelqu'un quand même qu'on aime beaucoup, c'est assez compliqué de se dire que, par exemple, c'est notre petit frère et on va quand même pas lui faire trop de mal. Et tout ça à cause de la colère.
Des fois, ça sort des muscles quand on se force de pas le faire.
Quand tu es énervé, bah on frappe ou on dit des gros mots.
Et ben, ça fait aussi du bien de la lâcher. Pour comme ça, après, tu seras tranquille pour le reste de la journée.
No mistakes so far in this match, right? You haven't overruled anything. No mistakes whatsoever.
Second stop, please.
Answer my question! The question, jerk!
Très joli mot d'ailleurs, moi j'adore ce mot, sa sonorité est belle, la colère. Ça coule d'abord avec le L, et puis ça rappe après avec le R, oui, c'est magnifique. Ce qui se rapprocherait le plus de l'impression que donne une colère, c'est le débordement, c'est l'hubris, enfin, c'est l'excès, c'est-à-dire c'est trop. La colère c'est toujours trop. Si tout était colérique, la vie serait invivable. Hein. Imaginez tout le monde en colère, bonjour, je voudrais une baguette,
La voilà.
Enfin, vous voyez, ce serait impossible. Donc j'imagine que c'est quand quelque chose existe, et puis maintenant on déborde cette chose. Hein. Ce serait ça la colère. Mais le débordement, lui, en revanche, est passionnant. Partout où il y a débordement, c'est passionnant, mais il peut y avoir un débordement de mille autres choses que la colère, enfin, de tendresse, d'amour, de tout. Tout peut déborder. Hein, donc c'est toujours la réaction à du négatif, ou quelque chose perçu comme du négatif. On ne se met pas en colère parce que tout va bien, enfin, en principe. Mais bon, c'est une façon d'enregistrer le négatif et de réagir. Mais je crois aussi qu'elle n'existe pas vraiment. Alors évidemment, maintenant, on peut aussi jouer le spectacle de cette colère pour le plaisir, enfin pour le plaisir ou pour impressionner l'autre. C'est Jean-Paul Sartre, je crois, qui dans un livre disait, comme l'expression française le dit très bien, on se met en colère. C'est-à-dire qu'on pourrait ne pas être en colère, mais on s'y met, on fait exprès d'eux pour montrer que, etc. C'est peut-être en partie vrai, même sûrement en partie vrai. Mais même si on se met en colère, on n'a pas pu ne pas se mettre. Et donc c'est quand même encore quelque chose qui échappe, je crois.
Il m'a tenu dans le creux de sa main, il m'a examiné. Voyez-vous, ça, regardez-moi ce bonhomme.
Prends-le à témoin, Antoine.
D'accord.
Lui, accuse-le. Tu vois, oui. On est vraiment là, pour le coup, dans un tribunal.
D'accord.
Et c'est les juges. Allons-y.
Voyez-vous ça? Regardez-moi ce bonhomme. Il a dit qu'il a été lui aussi invité, et même dans de flatteuses conditions. Et comme il en est fier, voyez comme il se redresse. Ah, mais ce qui n'est pas si petit qu'on le croit, il a su mériter comme un grand, c'est bien ça, c'est bien ça.
Voilà, là il faut que ça explose, effectivement.
Ah, mais qu'est-ce que vous pouvez comprendre?
Et ce qui est intéressant, c'est de voir que la colère vient aussi d'un manque, d'une blessure, et d'un sentiment d'écorchure. Il y a quelque chose, là il y a un gouffre entre vous, mais tu en souffres. Et de cette souffrance va naître ensuite la colère. Allons-y, reprenons.
Ah, nous y sommes. J'ai trouvé. Qu'est-ce que j'étais?
Tu étais...
Allons, dis-le, j'étais quoi?
Tu étais jaloux.
Ah, nous y sommes. C'est vrai. C'est bien ce que tu cherchais. Que je sois jaloux. Et tout est là. Tout est là. Il fallait que je le sois et je ne l'étais pas. J'étais content pour toi. Pour vous. Mais pour vous seulement. Moi, je n'en voulais pas de ce bonheur. Ni cru, ni cuit. Je n'étais pas jaloux. Pas jaloux! Non, je ne t'enviais pas. Mais comment est-ce possible? Ce ne serait pas donc le bonheur, le vrai bonheur, reconnu partout, recherché partout, le bonheur digne de tous les efforts, de tous les sacrifices? Non, vraiment! Il y avait donc là-bas, cachée au fond de la forêt, une petite princesse.
Quelle forêt, quelle princesse? Tu divagues.
Bien sûr, je divague. Qu'est-ce que tu attends pour les rappeler? Écoutez-le, il est en plein délire. Quelle forêt!
Top. C'est bien. Ce qui est bien dans ce que vous avez proposé, c'est le silence après le mot « tu étais jaloux ». C'est le mot a des répercussions. Et du coup, la colère, c'est aussi une histoire de rythme. Et dans ce silence-là, il y a quelque chose qui peut monter ensuite, quoi. Et j'ai trouvé ça très juste. Est-ce qu'on peut voir le dernier groupe? Ce qui provoque la colère, et la colère comme elle s'exprime, pour moi, il y a quelque chose comme de l'ordre de l'affirmation. Et c'est vrai que les points, pour moi, sont très importants. Quand un des personnages dans Pour un oui ou pour un non dit j'ai eu envie de te tuer, c'est pas j'ai eu envie de te tuer, la colère là s'exprime de manière affirmative. Et il y a quelqu'un qui m'impressionne beaucoup, c'est, les gens sont très étonnés quand je dis ça, mais c'est Eminem, c'est le rappeur Eminem, parce que il y a un endroit de colère très très forte chez lui, de rage. Il commence toujours très fort, très haut, et on croit qu'il va s'essouffler, qu'il va s'effondrer. Et non, il continue encore plus fort, il va toujours plus fort, parce que la colère se construit aussi dans le crescendo. Et pour moi, c'est un auto-allumage, j'aime bien ce terme de s'auto-embraser. Et là, dans cette rage inexpugnable, il y a quelque chose qui me touche profondément, et je trouve que tous les acteurs devraient en prendre de la graine.
prête à se répandre, à fracasser le silence, elle sait comment se faire entendre. Elle me transit l'effroi, très vite je ne sens plus mes membres. Je tremble, confus, impossible de me détendre. Je m'abandonne dans les méandres de ses reflux. Je ne suis plus que l'ombre de moi-même depuis notre entrevue. Je ne connaîtrai le repos qu'une fois son appétit repu. Enfin je cherche le repli, mais je n'essuie que des refus. À chaque fois qu'elle revient, c'est pour faire pencher la balance. Quand plus rien ne me retient, quand je subis son influence. La science de la furie, l'art de la guerre réveille tous mes démons. Si je l'écoute, si je coopère, mais si je la contiens, si je la domine, si j'en fais mon allié caché sous ma poitrine. C'est fou la force qui se dégage de ses remous quand elle est légitime et que l'agneau défie le loup. Elle éclate au grand jour et donne le change de ses sévices. Elle coupe court au long discours et tord le cou de l'injustice. C'est la bête noire qui veut la tête du tortionnaire. Ce plat qui se mange froid, cette hache que je déterre.
C'est comme Corvol, c'est comme Catherine, c'est comme colère et chagrin. C'est le cœur de Catherine Corvol battait à la volée dans l'eau, battait dans le bois de tous les arbres. C'est le cœur de Catherine battait une dernière fois sur cette terre, battait une ultime et prodigieuse fois contre le torse d'un homme. Car Ambroise Maupertuis sentait contre sa poitrine battre le cœur de la femme. Il sentait les coups lancés par ce cœur jusque dedans son propre cœur. Ce fut à cette minute que la folie fit effraction dans le cœur d'Ambroise Maupertuis. Il venait d'être empoigné par la folie pour n'avoir pu être l'amant de cette femme pourtant offerte à lui. Jour de colère aujourd'hui, jour de colère chaque jour de sa vie, jour de colère pour toujours. Le vieux Maupertuis sentait son cœur battre de colère, battre à tout rompre. Le personnage d'Ambroise Maupertuis, donc, dans « Jour de colère », c'est un véritable colérique, c'est un homme simple, un homme brutal, un homme des bois, hein, presque bûcheron assez pauvre, qui a toujours été bûcheron-tâcheron, et qui un jour a sa possibilité d'avoir une revanche sur celui qui était le maître, finalement, et là, il peut laisser éclater, déferler sa colère, et c'est des colères indurées, parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir des crises de colère comme ça, et puis une fois que ça a explosé, ils s'apaisent. Il y a des gens qui sont dans une sorte de colère sourde, et finalement, qui plutôt de l'ordre de la rancœur, du ressentiment, de la jalousie, etc. Là encore, la colère, elle se décline de façon très, très différente. Mais ça me rappelle, que ce soit dans les évangiles, ce qu'ils appellent les démons, chasser les démons, mais dans beaucoup de cultures dites traditionnelles, anciennes, ou très souvent, il y a expulsion comme ça de démons. On pense que quand les gens sont malades, psychiquement ou physiquement, ça relève du chaman ou du sorcier ou du griot pour expulser finalement des sortes de démons, comme si quelque chose d'extérieur était venu.
Mais réponds à ma question. Depuis tout à l'heure, je me demande avec angoisse si je n'ai pas commis de graves erreurs, si je n'ai pas été injuste, si je ne suis pas en somme une vieille bête, et si tout ça ne viendrait pas d'une tendance maladive à me mettre en colère.
Tu as dit maladive, par conséquent, ça regarde le docteur. Allons, docteur, réponds-lui.
Et toi, tu ne peux pas me répondre?
Et je craindrais de me tromper, moi.
Et tu ris comme un imbécile. Comment un ami de 30 ans vient te poser une question grave, une question venue du cœur? Et tu réponds par des ricanements?
César!
Mais qu'est-ce que ça veut dire, ce rire? Ça veut dire que je suis une vieille bourrique?
Allons, César!
Comme par ton refus de me répondre, tu fais semblant de dire, sans le dire, que je suis coléreux et que tu as peur de ma colère. Et vous aussi, monsieur Brun, vous ne répondez rien, mais vous faites semblant d'en penser le double. Quant à hum, avec son air supérieur, je me fous de ce qui ne dit pas et de sa coqueluche et des vieillards. Mais qu'est-ce que ça veut dire, à la fin? Depuis 30 ans, vous venez chez moi tous les jours et vous dites que je suis coléreux? Je supporte la stupidité des scartes-figues et vous dites que je suis coléreux? Je supporte les lyonnaiseries de M. Brun et vous dites que je suis coléreux. Je supporte le silence de ce médecin des chèvres et vous dites que je suis coléreux. Je supporte la présence de ce petit macaque, ce chauffeur, qui ne paie jamais ses consommations et qui de plus ne boit jamais rien. Et vous dites que je suis coléreux. Ce petit macaque, là, hier, je lui dis, tiens, serre-moi un piquant. Il me sert un piquant. Je lui dis, donne-moi de l'eau de Cels. Il prend le l'eau de Cels. Il appuie sur le siphon et il me le fait pisser dans la figure. Et vous dites que je suis coléreux.
Non, il n'est certainement pas coléreux et il nous le prouve.
Je sais, parce que vous me l'avez dit tout à l'heure, Pierre Chanlaine, que vous allez nous parler aujourd'hui de la colère.
Oui, de ce péché capital dont Sénèque a dit la colère est un délit de l'âme. Car puisqu'il est toujours question de la durée de l'amour, il est peu probable que cette durée puisse être bien longue dans une union de deux êtres dont l'un est coléreux.
La colère empêche de discerner la vérité.
La vérité ne peut être décelée que par un cerveau raisonnable. Il n'y a pas de raison possible chez un être qui ne s'appartient plus. La colère est en effet une sorte de folie. Celui qui cède à cette passion n'est souvent plus maître de ses actes, et alors il peut devenir un criminel. Dans tous les cas, il n'est plus maître de ses mots. Il fait à l'autre des blessures si graves qu'elles ne se cicatrisent pas. La colère est le plus puissant des corrosifs de l'amour. C'est, je le crois, Lope de Vega qui affirmait: un homme que la colère transporte se calme et se déride si on lui présente un miroir.
Mais parmi les coléreux, il n'y a pas que les emportés. Il y a les froids, les implacables.
Peu importe qu'un mari se jette aux pieds de sa femme et lui demande pardon, si dans une crise de colère, il est allé jusqu'aux voies de fait ou même seulement jusqu'aux injures. J'assimile ses remords à ceux de l'assassin qui, avec candeur, déclare au tribunal: j'étais en colère, je ne voulais pas tuer, je regrette sincèrement ce que j'ai fait. En attendant l'autre, l'adversaire est mort. Un amour comme un être humain ne peut pas ressusciter. Donc ouvrez les yeux, mesdemoiselles. Il est facile parmi vos prétendants de discerner les coléreux. Je vous invite à vous y employer et quand vous les aurez découverts, à les fuir.
Regardez ce qu'elle a l'air bête, celle-là, les coffres.
Tu deviens fou, Bertrand.
Oui, je deviens fou. Oui, je deviens fou. C'est vrai, je deviens fou. Et toi, t'auras pas d'autre. Rien. Mais tu n'auras rien.
C'est la disproportion qui fait rire. Moi, j'ai toujours ri aux larmes, même quand je me contente d'y repenser à un film de Marx Brothers. Où quelqu'un, lors d'une soirée, sans faire exprès, verse un peu de champagne sur la manche de Groucho, et pendant tout le film, il la poursuit pour lui briser les rotules à coups de barre de fer, vous voyez, enfin, et c'est la disproportion du châtiment par rapport à la faute qui est drôle.
Bon sang, enfin, c'est de la bouillie, tout ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors, reprenons.
En Europe, 9 fois sur 10 en tout cas, un metteur en scène, alors je parle de la vie maintenant, je ne parle plus d'un acteur sur scène, un metteur en scène, s'il ne pique pas au moins une fois, et peut-être plus, plus si affinité, mais au moins une fois une bonne colère, risquerait de prouver qu'il n'est pas un vrai metteur en scène, qu'il n'est pas un vrai chef en tout cas, qu'il n'est pas le patron de l'entreprise. Et il faut montrer son autorité par la voix qui... Voilà, il faut montrer qu'on est courroucé. Qu'on est en ire, comme on dit dans les mots croisés, qu'on est un peu hors de soi comme ça, et qu'on ne supporte pas telle chose, etc. Et alors là, tout le monde file doux en principe, ça y est, c'est le patron. En Asie, c'est exactement le contraire. Si vous vous mettez en colère, si un metteur en scène, par exemple, se met en colère contre un acteur, un chanteur ou un technicien, il est simplement ridicule. Les gens ont un peu honte pour lui. Ça veut dire qu'il n'a pas su se retenir, qu'il n'a pas su composer, qu'il n'a pas su vivre socialement, hein, qu'il a laissé aller des pulsions minables. C'est un peu comme s'il faisait pipi sur lui, enfin, on le plaint. En Allemagne, au contraire, on le respecte. Vous voyez, donc c'est vraiment très très différent. Voilà, mais est-ce que la colère, donc, est un moment d'autorité ou de force? Non, je ne crois pas. Profondément, je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Je crois, un peu comme les Asiatiques, que ça échappe.
Ma colère,
Sur quel terrain l'ai-je semé? Quels détours m'ont fait? M'ont fait l'oublier?
Aussi, des fois, on peut aimer quelqu'un comme j'aime Michael, mais des fois, je peux me gronder avec lui et j'oublie que je l'aime.
En fait, quand on est en colère, ça veut dire que la pression monte de plus en plus. Et ça, il y a un moment où la pression va peut-être éclater, ça va éclater de plus en plus fort.
Bah moi, je pense le contraire, il faut plutôt la garder pour soi-même et pas la dire, parce que sinon tout le monde va être fâché. Après, on pourrait plus se pardonner, même si à un moment on se pardonnerait.
Je ne sais pas quand j'ai commencé à taire ma colère. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai choisi un masque souriant et un ton exagérément aimable. Ce jeu a abîmé des amitiés et rendu impossible des amours. Mais il a préservé mon clan, ma famille, menée par un dictateur domestique, toujours prompt, comme les dieux antiques, à déverser son ire sous forme d'un châtiment disproportionné sur les simples mortels que nous étions, nous, ses enfants. Mais un jour, l'une d'entre nous a explosé. C'était la plus souriante, la plus gentille, la plus silencieuse aussi. Un cancer, arrivé trop tôt, lui a donné le courage d'arrêter de sourire. Et l'ancien monde s'est enfin écroulé. Les mots se sont mis à couler de cette bouche, soudain béante, des mots terribles qui font mal. Brûlant, écrasant, vexant aussi, mais des mots sincères, vivants.
Ah non, là, moi, je pense qu'elle est très profondément créatrice, la colère. Je pense que la colère, en fait, c'est le ressort de la création. J'arrive même pas à imaginer ce que c'est que de vivre sans colère, en fait. Je sais même pas ce que c'est. J'essaie de penser à un jour où j'ai pas été en colère et en fait, j'en vois pas. Parce que quand ce n'est pas la colère contre les siens propres, contre ma famille en l'occurrence, c'est la colère contre ce qu'on voit autour de soi, c'est-à-dire l'espèce de bêtise qu'on voit autour de soi, enfin tout, quoi, le poids du monde comme ça sur nos épaules. Et la seule façon en fait, de réagir à ça, c'est d'écrire, c'est-à-dire ce qui est formidable dans l'écriture, en fait. Et c'est pour ça qu'on ne meurt pas. C'est que ça emporte tout. Tout passe dans l'écriture, tout fait écriture. Tout fait écriture. La colère est très créatrice. Donc, je ne sais pas ce que c'est de ne pas être en colère et je sais combien la colère est porteuse.
Les gens nés sous le signe du bélier, avec Mars à l'ascendant, sont par nature extrêmement agressifs et créateurs. En quoi, naturellement, je n'attribue pas au mot agressif la signification souvent donnée à tort de haineux, querelleur, méchant, mais le sens plus général de capable et désireux de se mesurer à tout. et ils ont surtout besoin d'un point d'application pour y exercer leur action et s'affermir. Si un tel être martien est privé de ce point d'application extérieur et de cette résistance, il retourne son agressivité naturelle vers l'intérieur et se détruit lui-même. Fritz Zorn, Mars. La colère, dans ce qu'elle a de positif et de régénérant, nous amène aussi à aller vers autrui et à être hors de soi-même et à exprimer quelque chose qui tout d'un coup est vrai. Le masque se fissure, le rideau se déchire. La scène peut permettre d'exprimer quelque chose de l'ordre de la vérité. Et la colère en est un des moyens les plus forts. Si je n'exprime pas une colère personnelle, un gouffre intime, un abîme à moi, ça n'a pas d'intérêt que je sois sur scène, même à la radio, même à la télévision, il faut que je sois en contact avec un élément d'incandescence, un élément de colère qui m'habite. Et l'élément de feu, l'élément de colère, le Mars, comme on dit, je crois, est essentiel et inhérent à toute création, même si après ça peut se transformer. Il y a une colère calme aussi, il y a une colère infiniment sourde. Et il faut aussi parfois apaiser ces volcans, mais la source, je crois, doit être toujours là.
On dit une colère sourde. Je crois qu'on veut dire par là que quand on est en colère, l'autre n'existe plus. L'objet du conflit est plus important que la personne qui a créé le conflit. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on dit qu'on est en colère contre quelqu'un, mais c'est jamais vrai. On est en colère tout court. Et évidemment que ça vient de ce quelqu'un, et que ça ira peut-être à ce quelqu'un après. Mais sur le moment de la colère, c'est que de la colère. C'est-à-dire que c'est que de l'absolu, en quelque sorte. On s'est assourdi.
J'ai fermé les yeux. Papa m'a secoué. « William, William, réveille-toi. Tu n'as pas vu maman ?»« Ah non, non, j'ai dit. Mais enfin, merde, où est-elle passée ?»« Je sais pas, j'ai soufflé. Je sais pas. On n'a qu'à la chercher. » Et à toute vitesse, j'ai sauté du lit, sans regarder vers l'armoire à linge, pour le suivre dans la chambre de Frédéric et Nicolas. Mais ils ne l'avaient pas vu non plus, Frédéric et Nicolas. Enfin, eux l'avaient vraiment pas vu. Tandis que moi, je l'avais vu, bien sûr, mais je ne pouvais pas dire « J'ai vu maman se cacher, papa ». Non, ces mots-là, je ne pouvais pas les dire. C'était, je ne sais pas moi, c'était indigne, quelque chose comme ça. C'était indigne d'une maman de faire ça. Alors si je les disais, ces mots-là, eh bien c'était un peu comme si je la tuais. J'aurais dit « Oui, je l'ai vu se cacher là », et d'un seul coup, elle serait devenue une loque, une merde. Parce qu'on n'a pas le droit de faire ça à ses enfants. De se cacher, de leur faire peur. On n'a pas le droit, ça leur fait honte aux enfants.
Et donc j'ai écrit « Priez pour nous », qui est mon premier roman, et qui est un roman que j'ai jamais relu, mais je sens tellement de colère en l'écrivant. Je me souviens de moments où, quand je suis en train d'écrire, où je pense comme ça, en posant ces mots-là, je pense, avec cette phrase-là, je vais la tuer. Et je parle de ma mère, en fait. Je suis dans une rage absolument mortelle contre ma mère, qui aura passé toute notre enfance en fait à faire la folle, alors qu'on est 10 enfants, donc à se rouler par terre, à faire l'inconsciente, à faire la crétine. Extrêmement en colère contre mon père, qui était représentant, qui ne sait même pas pourquoi il a fait 10 enfants, et même 11. Toute notre enfance a été vécue dans un chaos organisé par 2 crétins, en fait. Et c'est absolument épouvantable pour moi. C'est-à-dire qu'on était privé de livres, on était privé de rapports avec les autres. Il n'y avait jamais personne qui venait à la maison parce que ma mère était à moitié piquée. Donc, vous étiez isolé du monde. Et je fais passer, en fait, dans « Priez pour nous », toute la colère des 35-37 années qui viennent de s'écouler. Et je pense que c'est un livre salvateur. Et c'est pour ça que quand mes 9 frères et sœurs, et évidemment mes parents, me dit « Si tu oses publier ce livre, on ne te reverra jamais et on ne reverra jamais plus tes enfants », j'assume. Ce n'est pas facile. Je mets tout l'été, puisque le livre est sorti en septembre 90, je mets tout l'été 90, en fait, à réfléchir, en sachant très bien que je vais publier mon livre, bien sûr. Je pense qu'on ne revient pas en arrière.
Mais je réfléchis quand même à la violence que ça représente, quand en fait vous êtes jeté en dehors du clan parce que vous osez exprimer ce qui s'est passé à l'intérieur et la façon dont en fait on vous a détruit avec tout ça, c'est très violent en fait, c'est une violence supplémentaire. Mais en même temps, la survie est extrêmement importante. Moi, je pense que je suis extrêmement vivant, c'est-à-dire que j'ai adoré le bouquin de Zorn, mais je ne veux pas mourir, quoi. Je veux vivre, je suis en colère, j'en fais quelque chose et c'est pour ça que je me suis tellement battu. Hein. J'en suis à mon 17e livre, je crois. Donc j'ai travaillé, quoi. J'ai travaillé plutôt que de mourir, oui, ça c'est sûr, quoi.
Je suis jeune et riche et cultivé. Et je suis malheureux, névrosé et seul. Je descends d'une des meilleures familles de la rive droite du lac de Zurich, qu'on appelle aussi la rive dorée. J'ai eu une éducation bourgeoise et j'ai été sage toute ma vie. Ma famille est passablement dégénérée, c'est pourquoi j'ai sans doute une lourde hérédité et je suis abîmé par mon milieu. Naturellement, j'ai aussi le cancer, ce qui va de soi, si l'on en juge d'après ce que je viens de dire. Cela dit, la question du cancer se présente d'une double manière. D'une part, c'est une maladie du corps, dont il est bien probable que je mourrai prochainement, mais peut-être aussi puis-je la vaincre et survivre. D'autre part, c'est une maladie de l'âme, dont je ne puis dire qu'une chose, c'est une chance qu'elle se soit enfin déclarée. Je veux dire par là qu'avec ce que j'ai reçu de ma famille au cours de ma peu réjouissante existence, la chose la plus intelligente que j'ai jamais faite, c'est d'attraper le cancer.
Dans cette troisième situation, le rat ne peut pas fuir. Il va donc recevoir toutes les punitions, mais il sera en face d'un autre rat qui lui servira d'adversaire. Et dans ce cas, il va lutter. Cette lutte est absolument inefficace. Elle ne lui permet pas d'éviter la punition, mais il agit. Un système nerveux, ça ne sert qu'à agir. Ce rat ne fera aucun accident pathologique. Il va être en très bon état, et pourtant, il aura subi toutes les punitions. Or, chez l'homme, les lois sociales interdisent généralement cette violence défensive. L'ouvrier qui voit tous les jours son chef de chantier, dont la tête ne lui revient pas. Il ne peut pas lui casser la figure, parce qu'on lui enverrait les agents.
Et puis il faut bien qu'il y ait un chef.
Il ne peut pas fuir parce qu'il serait au chômage. Et tous les jours de la semaine, toutes les semaines du mois, tous les mois de l'année, tous les années, quelquefois qu'ils se succèdent, il est en inhibition de l'action.
Fallait le prévoir. Avoue plutôt que t'as d'autres engagements. Nous t'avons servi de marchepied et maintenant tu te fous de nous laisser tomber.
Merde, merde, merde! Grouillet!
Quand son agressivité ne peut plus s'exprimer sur les autres, elle peut encore s'exprimer sur lui-même de deux façons. Il somatisera. Il pourra aussi orienter son agressivité contre lui-même d'une façon encore plus efficace. Il peut se suicider.
Dès le point de départ, jusqu'à celui de non-retour. On casse, on répare, on naît, on repart un jour. Je suis un homme en colère, et ça ne me dérange plus de ne pas vous plaire, et c'est vert seulement s'il a plu, si ma plume est sévère, sans que l'un de mes vers n'ait plus. Je me sentirai plein, le reste, je ne sais plus. Je suis juif à Auschwitz, et noir à Gorée, cambodgien de Phnom Penh, palestinien de Jérusalem, je suis un nègre au bout d'une corde, un bougnoul dans la Seine, une militante morte, je vis dans une réserve indienne, je suis un enfant soldé, un bébé dans un feu, une jeune prostituée, petite fille sans un jeu, je suis les restes d'un crâne broyé sur un tronc, je suis le drame humain, je suis la voix qui dit non, je suis un homme en colère, si tu ne me comprends pas, va-t'en ou tolère, surtout ne demande pas pourquoi. Si mes paroles vous gênent, je n'en serai pas désolé. Si vos mains frappent vos rênes, quelqu'un doit bien en parler. Non, je n'ai pas la haine. Viens donc dans ma famille. Tu verras des yeux qui brillent et des gens fiers par dizaines. Mais comme le poète disait, les anges ont du chagrin. Et je nous sens bien moins que rien. Bien loin d'être humain.
L'indignation, la fameuse indignation dont on a beaucoup parlé pendant un temps et qui malheureusement a l'air un petit peu retombée, c'est une forme très policée de la colère finalement. C'est quand même une forme de colère aussi. Et parfois de l'indignation, il faudrait passer à la colère. Le problème, c'est quand la colère n'est plus saine colère qui amène... Une saine colère reste, je pense, avec un certain contrôle de la pensée, de la réflexion. Et peut générer une attitude, un comportement qui essaye d'être adéquat à la situation pour répondre, essayer de redresser des injustices. Et le problème, c'est quand la colère n'a pas réussi à rentrer dans une véritable action positive, qu'elle se heurte à un mur, qu'elle crie dans le désert pour le coup, et là, ça peut devenir, comme vous savez, une plaie qui s'infecte. Et là, on passe du côté du registre des images du feu, dont on parle souvent pour la colère. Hein. On parle en termes de feu, etc.
Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour pousser un cri de colère, parce que vraiment, on en a marre qu'on dise que les chômeurs soient tous des feignants. Je peux vous dire que quand on cherche du travail, c'est un parcours de combattant. Ce que propose le patronat, c'est une régression sociale de 50 ans. Vraiment, on se retrouve au 19e siècle, au temps des forges. Et ça, c'est insupportable pour nous. Et on est en l'an 2000 et il faut qu'il y ait une véritable protection sociale des chômeurs. Pour retrouver un travail, il nous faut une indemnisation décente. Il faut qu'on puisse avoir de l'argent pour pouvoir trouver un travail, pour pouvoir avoir du transport, pour pouvoir payer notre électricité, pour s'habiller correctement, pour aller chez le coiffeur, pour être potable, pour vivre normalement, faire manger nos enfants. Donc ce que nous met le MEDEF à l'heure actuelle, c'est pire que ce qu'on a déjà. Et déjà, ce qu'on a, c'est pire.
Je pense, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai tellement aimé aussi Jacques Vergès, sur lequel j'ai pas mal travaillé, je pense que naître en colère, c'est important. Vergès, c'est un type qui est né en colère, ça rejoint des thématiques que j'avais sur la colonisation, sur des tas de thèmes qui m'ont passionné dans ma vie. Les gens en colère, en fait, sont à la fois dans la nécessité absolue d'exprimer cette colère pour pouvoir survivre, parce que sans ça, ils vont mourir. Et donc, ils sont toujours engagés dans un combat très intime, très personnel. Ce qui était le cas de Vergès, ce qui est mon cas aussi. C'est-à-dire qu'on traverse le siècle en marge. La colère, en fait, vous dicte une trajectoire personnelle de survie. Ce qui est mon cas, ce qui est tout le temps mon cas, en fait. Il y a vraiment une affaire de survie entre soi et soi. Je veux dire, quand on est aussi en colère depuis la naissance, on ne peut pas malheureusement se consacrer beaucoup aux autres.
Et tout à coup, tu t'es arrêté.
Ne sois pas nerveux. C'est une colère calme.
Et tout à coup, tu t'es arrêté.
Regarde là.
Tu as stoppé toute la cordée.
Oui.
Et tu as dit, sur un ton, si on s'arrêtait un instant pour regarder, ça en vaut tout de même la peine.
J'ai dit ça. Mmh. J'ai osé.
Oui. Et tout le monde a été obligé de s'arrêter. Nous étions là, à attendre. Tu nous forçais à nous tenir devant ça, en arrêt.
Tu nous forçais à nous tenir devant ça.
Tu nous forçais.
Investis les verbes.
Tu nous forçais à nous tenir devant ça, en arrêt. Que nous le voulions ou non. Alors, je n'ai pas pu résister.
Regarde là.
J'ai dit...
J'ai dit, allons. Prends le temps.
Allons, dépêchons. Nous n'avons pas de temps à perdre. Tu pourras trouver en bas, chez la papetière, de
jolies... Choisis bien tes mots. Tu pourras trouver en bas, chez la papetière, de jolies cartes postales.
Tu pourras trouver en bas, chez la papetière,
chez la papetière,
de jolies cartes postales.
Fais-moi reluire le mot papetière.
Papetière. Tu pourras trouver en bas, chez la papetière, de jolies cartes postales.
Ah oui. Je m'en souviens. J'ai eu envie de te tuer.
Doucement. Alors voilà, c'est pour arriver à cette phrase. J'ai eu envie de te tuer. Ne piétine pas non plus. Restez bien, bien droit. J'ai eu envie de te tuer. Le type qui va dire je vais te tuer, je vais te tuer, je vais te tuer. Quelque part, on n'y croit pas. Alors que celui qui va dire je vais te tuer. Tu entends, je vais te tuer. Très calme, très froid, c'est lui qui va le faire. Et là, il y a quelque chose d'après le cataclysme, c'est pour en arriver à une espèce de situation sans retour, quoi, sans rémission. Ah oui, je me souviens. J'ai eu envie de te tuer. Il faut que ça soit froid, ça. Il faut que ça soit... Reprends. Prends un peu de distance encore, un peu, Anne, s'il te plaît. Non, par là, vers fond. Vers le fond. Voilà, c'est bien. Allons-y.
Ah oui, je m'en souviens. J'ai eu envie de te tuer.
Et moi aussi. Et tous les autres, si vous voulez.
C'est bien, mais il faut que ça soit plus affirmé, ça. Et moi aussi. Oui. Parce que là, on n'y croit pas vraiment. Allons-y, reprenons.
Je pense que il y a évidemment, vous le savez aussi bien sinon mieux que moi, différentes sortes de colère et différentes façons de la jouer, jusque même son contraire, c'est-à-dire un calme olympien, un placide, une placidité absolue. Et c'est peut-être même d'ailleurs souvent la plus belle colère, celle où on voit à peine frémir le muscle de la joue, où on voit quelqu'un qui a la voix qui tremble à peine, mais qui continue à être très calme. C'est ce qui se passe, par exemple, chez les grands gangsters, vous voyez, dans les films, en tout cas. Vous voyez le parrain dire « je crois que je vais le tuer ». Voilà. Et c'était de la colère, mais vous voyez bien qu'il n'y a aucune des caractéristiques habituelles de ce qu'on appellerait de la colère. Il était fou de rage, mais il a calmé tout ça, tenu tout ça.
Parfois, la colère n'est pas obligée d'être représentée par un cri. La colère peut être parfois exprimée de manière beaucoup plus puissante par des visages ou même par des mises en scène très sobres ou un visage très fermé. Ça va être dans l'intensité d'un regard, dans la fermeture d'un regard. Je pense soudain à un tableau qui n'est pas des plus connus de Toulouse-Lautrec, d'une femme qui est comme une habillée un peu une femme du peuple ou une blanchisseuse. Moi, je l'appelais toujours la gifle. On dirait que cette femme ou a reçu une gifle ou s'apprête à en donner une, à en flanquer une. Il y a une espèce de colère qui habite ce corps. Rien n'est marqué, rien n'est exprimé. Pourtant, elle n'est pas violente dans ses gestes. Vous voyez parfois des tableaux beaucoup trop représentatifs où les gens c'est très hyper expressif, pathétique. Et pour moi, ça rate sa cible, justement. Et parfois, au contraire, on peut voir des colères rentrer ou des sortes de presque de véhémence dans des visages d'hommes ou de femmes représentés en peinture. Et la photographie l'exprime aussi très, très bien.
Moi, je pense que la colère, comme elle est grande et elle attaque beaucoup de choses, moi, je pense que c'est un ours.
Moi, je trouve que la colère peut être une plante parce que, par exemple, sur le rosier, si on le touche, on a mal aux mains parce que ça pique. Et si on a une colère, ça fait mal à la tête.
Des ronces qui vont dans tous les sens, qui s'excitent de plus en plus dans ta tête. Et quand tu ne penses plus à la colère ou tu penses à autre chose, elles s'enlèvent tous.
Moi, si la colère serait un animal, je croirais que ce serait le rhinocéros ou le lion.
Aussi, on peut penser que ça peut être un léopard qui court de plus en plus vite. Et quand il a fini de chasser la bête, il repart dans sa maison. Ça veut dire qu'on peut être moins fâché. Et s'il court très 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 vite, ça veut dire que le léopard il va bientôt aller à la vitesse lumière et il défonce tout en fait.
Platon, irrité contre son esclave et ne pouvant prendre sur lui de différer le châtiment, lui avait ordonné de se déshabiller promptement et de présenter son dos au fouet. Il voulait le battre de sa propre main. Mais, s'apercevant qu'il était en colère, il tint son bras levé et suspendu dans l'attitude d'un homme qui va frapper. Un ami qui survint lui demanda ce qu'il faisait. « Je châtie un homme emporté. » dit Platon. Et ce philosophe demeurait comme stupéfié, conservant cette position menaçante, ignoble pour un sage. Car sa pensée était déjà loin de l'esclave, il en avait trouvé un autre plus digne de punition. Il abdiqua donc ses droits de maître, trop ému qu'il était pour une peccadille, et dit à Spesippe, « Toi, corrige ce misérable, car moi, je suis en colère. » Il s'abstint de frapper par le même motif qui eût poussé tout autre à le faire. « Je ne m'appartiens plus, pensa-t-il, j'irai trop loin, j'y mettrai de la passion. Ne laissons pas cet esclave à la merci d'un homme qui ne se maîtrise pas. » Voudrait-on confier la vengeance à des mains irritées quand Platon lui-même s'en est interdit l'exercice? Ne permettez rien à la colère. Pourquoi? Parce qu'elle veut tout se permettre.
En fait, c'est marrant parce que je ne place pas du tout la colère au même endroit que les autres, probablement. Moi, je ne peux pas supporter être en colère contre ma femme ou contre les gens que j'aime. Donc, je n'arrive pas à être en colère. J'ai une colère vitale, comme ça, qui fait que tous mes livres sont assez en colère. Mais je suis comme ça. C'est vrai que quand ma femme me quitte, elle me dit « je vais prendre un appartement » et je viens lui faire les travaux pour qu'elle soit bien installée, quoi. Et je me souviens, ma première femme partant avec son amant faire du ski, et je l'accompagnais à la gare d'Austerlitz avec ses skis pour pas qu'elle marche sous la pluie. Je me fais l'effet de ne pas être un homme comme les autres, d'être à peine un homme en vérité. Mais en même temps, je l'ai bien cherché, puisque depuis toujours, je déteste les hommes avec leur sacro-sainte virilité et cette suffisance qu'ils affichent partout. Je me souviens qu'enfant, suivant Toto dans ses tournées de représentants, je les méprisais déjà avec leurs chemises roses et leurs gourmettes. Des crétins prétentieux pour la plupart. J'ai un rapport comme ça, probablement parce que ma mère est un dragon absolument épouvantable et que je ne peux pas supporter tout ce qui pourrait ressembler à des disputes à l'intérieur d'un couple. Je trouve ça pitoyable et donc je suis extrêmement gentil, oui, à l'intérieur de la petite cellule familiale, comme ça. Ça ne remet pas du tout en cause la colère fondamentale que je peux avoir à l'égard de la vie, d'une façon générale, et de la mienne en particulier.
Je crois aussi que se mettre en colère, c'est attendre quelque chose. Et peut-être qu'il y a un désespoir de base chez certains, je ne dis pas que ce soit forcément mon cas, hein, mais je ne parle plus tout à fait de moi. Mais il y a peut-être un désespoir de base qui fait que ça n'est pas la peine de dépenser autant d'énergie puisque c'est fait, puisque trop tard, et qu'il vaut mieux maintenant agir et faire autre chose, ou même être au-delà de ça. Vous voyez, même pas au-delà, par-delà, comme dirait Nietzsche, hein, c'est pas simplement un autre monde, c'est, on parle de celui-ci, mais même malgré tout, je m'en fous, vous voyez, et je vais au-delà.
Mon clan a explosé. La colère des enfants a eu raison de la dictature du père, de l'emprise qu'exerçait l'homme en colère, colère éructante, colère indurée, colère folie, colère qui fait peur et honte aux enfants. Du chaos est née l'harmonie. La femme debout a terrassé le cancer, la colère apaisée est devenue une partenaire et la vie a pu se vivre avec toute sa palette d'émotions. Plus forte, plus belle. Sur la terre brûlée pousse le meilleur blé, dit le chanteur belge. Je suis colère, je suis vivante. I'm not angry anymore, well, sometimes I am. I don't think badly of you, well, sometimes I do. It depends on the day, the extent of all my worthless rage. I'm not angry anymore. I'm not bitter anymore. I'm syrupy sweet. I rot your teeth down to their core if I'm really happy. Depends on the day if I wake up in a giddy haze. Well, I'm not angry. I'm not totally angry. Not all that angry anymore.
Merci à Lionel Duroy, Sylvie Germain, Daniel Mesguiche, Gabriel Dufay et ses étudiants des ateliers artistiques de Sciences Po Paris, Patrick Amine et aux enfants de Saint-Leu-la-Forêt. Lecture par les auteurs de Jour de colère, Sylvie Germain, Priez pour nous, Lionel Duroy, Petit éloge de la colère de Patrick Amine. Texte « Je suis colère » lu et écrit par Catherine Gilliardi. Gabriel Dufay lisait « Mars » de Fritz Zorn, « L'art d'apaiser la colère » de Sénèque. Les étudiants de Sciences Po répétaient « Pour un oui ou pour un non » de Nathalie Sarraute. Extrait de « Marius » de Marcel Pagnol, « Mon oncle d'Amérique » d'Alain René avec le professeur Laborie, « Kirikou et la sorcière » de Michel Oslo. Musique, La Canaille, La Belle Bleue, Françoise Breu, S. Petit Nico, Xavier Garcia, Bing Boucheus, Ginger Peter et Paramore. Archives, Ina. Attachée d'émission, Inès De Bruyne, Alice Ramon. Prise de son, Manon Houssin. Mixage, Éric Boisset. Coordination, Irène Omelianenko. Je suis colère, un documentaire de Catherine Gilliardi, réalisé par Nathalie Salle pour les ateliers de la création.
Vous pouvez réécouter et podcaster cette plongée dans la colère nécessaire et fondamentale par Catherine Gilliardi et Nathalie Salle sur le site internet de France Culture. On se retrouve demain soir à 23h dans les ateliers de la nuit.